Philosophie première par le Père Philippe, à Saint-Joseph, le 25 février 85.
Nous avions commencé la dernière fois à voir la diversité des qualités. Essayez vous-même de vous faire cette petite table des diverses qualités et une hiérarchie de ces diverses qualités. Vous comprenez que la qualité impliquant à la fois l'ennoblissement et le lien avec la fin, c'est toujours à l'égard de ces deux aspects-là que nous pourrons hiérarchiser les qualités et voir leur diversité. Et c'est pour ça que je vous disais, la première qualité, celle qui domine toutes les autres, c'est l'habitus de sagesse. Même si c'est rare, c'est vrai, je vous viens dire que peu d'hommes, surtout aujourd'hui, je crois que ça a toujours été comme ça, peu d'hommes acquièrent vraiment l'habitus de sagesse. L'habitus don du Saint-Esprit est donné d'une façon plus générale. Je crois que toute âme chrétienne qui tend vers la contemplation, exerce l'habitus de sagesse. Et tout chrétien, par le baptême, a le don de sagesse. Tandis que nous ne pouvons pas dire que tout étudiant de philosophie a l'habitus acquis de sagesse, et même pas ceux qui passent leur licence. C'est deux ordres différents. Ça met du temps d'acquérir l'habitus de sagesse. Parce que c'est non seulement la philosophie qui est une recherche, mais c'est d'aboutir au terme de la recherche pour que la philosophie se transforme en sagesse. Et la philosophie se transforme en sagesse quand la philosophie, justement, découvre l'existence de l'être premier. Et une fois qu'elle a découvert l'existence de l'être premier, il y a une certaine contemplation de cet être premier, et à partir de là, un certain jugement. L'habitus de sagesse implique en quelque sorte comme trois moments. C'est ce que nous allons essayer de voir rapidement, pour ne pas s'arrêter longtemps là-dessus, mais c'est quand même tellement important de voir la qualité de la qualité. Et c'est pour ça que c'est vraiment la première qualité dans le sens, dans l'ordre de la noblesse, dans l'ordre de la perfection. Et je dis bien qualité de la qualité, parce que cet habitus de sagesse, c'est exis, habitus, quelque chose qui vient perfectionner l'intelligence et la volonté. Et qui vient perfectionner l'intelligence et la volonté dans leur unité. Et qui vient mettre un sceau d'unité dans le point de vue de l'intelligence et de la volonté. Pour permettre à l'intelligence, non pas du tout d'être au service de l'amour, l'intelligence ne peut pas être au service de l'amour. Elle a une noblesse trop grande. Mais l'intelligence nous fait aimer. C'est ça qu'il faut bien comprendre, hein. L'intelligence n'est pas extrinsèque à l'amour, comme si, dès qu'on aime, l'intelligence se tait. Pas du tout. L'intelligence est présente dans l'amour, et elle est présente dans l'amour, dans ce que cet amour a d'ultime, la contemplation. Alors c'est ça qui est très difficile à bien saisir, et qui pourtant est très important à bien comprendre, ce que représente donc cette habitude. Poser la question à Raymond, la dernière fois que je suis passé, pouvons-nous parler d'un habitus infini de sagesse? Ça, c'est au point de vue d'une théologie morale. Pouvons-nous parler d'un habitus infus de sagesse? Je vous laisse simplement y réfléchir si la question a un intérêt pour vous. Parce que si vous ne voyez même pas la question, vous savez, on parle de prudence acquise et de prudence infuse. Toutes les vertus sont normalement acquises. On met du temps à acquérir l'humilité. C'est pour ça qu'au bout d'un certain temps, on devient spécialiste de l'humilité. Alors on met du temps à acquérir l'humilité. C'est très long, c'est très long. Et heureusement, il y a une humilité infuse. Dès qu'on a l'état de grâce, dès que la grâce nous est donnée, toutes les vertus infuses nous sont données. Alors il y a une vertu d'humilité infuse. C'est pour ça que si on vit sa vie chrétienne et qu'on ne cherche pas à acquérir l'humilité, il y a un petit quelque chose dedans de nous-mêmes, dans notre conscience chrétienne, qui nous dit « ça va pas, ça va pas ». Parce que l'humilité infuse qui nous est donnée réclame l'humilité acquise. Parce que quand il y a la vertu infuse sans le point de vue infuse, sans le point de vue acquis, ça grince. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut acquérir les vertus pour permettre un exercice plus facile des vertus infuses. Alors, comme il y a la prudence infuse, y a-t-il un habitus? On peut parler de la vertu de sagesse et la vertu acquise de sagesse. Y a-t-il une vertu infuse de sagesse? Il faut se poser la question. Qui n'est pas le don de sagesse, hein, faisons attention, qui n'est pas le don de sagesse? Le don de sagesse est bien évident, il est infus. Mais y a-t-il ça? Ça, ce serait très intéressant. C'est très intéressant comme question. C'est une question qui vaut la peine d'être posée. Et elle n'est jamais posée. Parce qu'on ne s'occupe pas beaucoup de la sagesse. Alors, elle n'est jamais posée. On doit se la poser. Dans la mesure où quelqu'un qui n'a pas fait, par exemple, de métaphysique, qui a le don de sagesse, et dans ce don de sagesse, Dieu permet des éléments de sagesse qui serait normalement acquise d'être présent. Ça peut très bien se rencontrer, ça. Catherine de Sienne, sœur Élisabeth de la Trinité. Il y a des éléments qui sont des éléments peut-être acquis, parce que sœur Élisabeth de la Trinité avait le Père Vallée comme directeur et que le Père Vallée avait l'habitude de sagesse, et donc il pouvait la communiquer un tout petit peu à sa pénitente. Mais ça peut venir aussi, ça peut se faire aussi, que la pénitente de quelqu'un qui a l'habitus acquis de sagesse, Dieu permet que par celle qu'on dirige, on reçoit des lumières. C'est très mystérieux, c'est vrai qu'il y a l'habitus infus de sagesse. Très, très mystérieux. C'est très important à comprendre. Alors, essayons de comprendre qu'est-ce que c'est que cet habitus acquis de sagesse. On peut être sûr que quelqu'un comme Aristote a eu l'habitus acquis de sagesse. Ça, j'en suis sûr. Hein. La manière dont il parle de la contemplation, la manière dont il nous révèle ce qu'est la contemplation philosophique, personne ne l'a dit avant lui, donc il ne l'a pas copié. Et donc il a acquis. Il a acquis ce que représente cet habitus acquis de sagesse. Et il n'y en a pas beaucoup. Saint Thomas, sûrement. L'habitus acquis de sagesse. Qu'est-ce que c'est que cet habitus acquis de sagesse? Eh bien, je dis, il existe, hein, il y a des habitus, c'est la qualité de la qualité. Parce que c'est reçu par l'intelligence. Mais une intelligence transformée par l'amour. La sagesse est une connaissance amoureuse. Ce n'est pas une connaissance de recherche purement philosophique. C'est une connaissance amoureuse, c'est-à-dire c'est une connaissance tout imprégnée d'amour. Et c'est en ce sens-là qu'on peut dire que l'habitus de sagesse vient transformer du dedans l'intelligence dans ce qu'elle a de plus profond, c'est-à-dire une intelligence qui est liée à cette capacité d'aimer, une intelligence tout entière orientée vers sa fin. L'amour est toujours là pour nous réveiller dans l'intelligence. Il faut un grand amour de la sagesse pour être attentif à la recherche métaphysique. Vous savez bien. Autrement, on se laisse prendre par la distraction. Et si on se laisse prendre par la distraction, c'est parce qu'on n'a pas actuellement cet amour de la vérité. Si on a actuellement cet amour de la vérité, notre intelligence est mobilisée, est tout entière prise et ordonnée. Donc, il y aura toujours, pour la philosophie, pour toute la philosophie, un grand amour de la vérité. On ne commence à faire de la philosophie que quand on a un amour de la vérité. Autrement, on n'en fait pas. Alors, c'est cet amour de la vérité qui nous maintient tendus. Mais cet amour de la vérité demeure extrinsèque à toutes les analyses philosophiques. Les analyses philosophiques ne relèvent pas d'une intelligence amoureuse. Elles relèvent tout simplement d'une intelligence pénétrante et percutante. Hein, c'est-à-dire d'une intelligence qui essaie d'aller le plus loin possible dans l'analyse de ce que nous devons essayer de comprendre. Est-ce que, lorsque l'intelligence arrive, posez-vous les questions, parce que c'est un domaine extrêmement difficile à préciser, lorsque l'intelligence, après toutes les analyses métaphysiques, aboutit à l'interrogation, existe-t-il une réalité supérieure à l'homme ? Existe-t-il une réalité première qui correspond à ce que les traditions religieuses appellent Dieu ? C'est une interrogation que nous devons nous poser au terme de toute l'analyse métaphysique. C'est une interrogation extrêmement importante puisque, en fonction de la réponse que nous donnons à cette interrogation, ou nous entrons en sagesse, ou au contraire, nous disons, il n'y a pas de sagesse. Donc, vous voyez, c'est une interrogation très très importante. Est-ce qu'il existe une réalité qui est au-delà de l'homme ? Puisque l'homme est la réalité que j'expérimente comme étant la plus parfaite parmi toutes les autres réalités. Au point de vue philosophique, c'est net. Nous ne pouvons plus dire comme Aristote hein, qu'il y a au-dessus de nous le soleil qui est plus noble que l'homme. Il y a au-dessus de nous les étoiles qui sont plus nobles que l'homme. Nous sommes obligés aujourd'hui de reconnaître que c'est l'homme dans l'univers qui est la réalité la plus noble. Et c'est pour ça que je vous disais l'autre jour que le corps de l'homme demeure la réalité la plus parfaite de l'univers. Et tout l'univers est finalisé par la formation du corps de l'homme. Si on a une vision philosophique, hein, pas scientifique, philosophique du monde. Et c'est pour ça que je vous disais aussi, je le redis, parce que c'est toujours très important, que nous ne voyons pas de lieu pour le corps de l'homme, au point de vue philosophique. Il n'y a pas de lieu propre, et que le seul lieu devient l'omniprésence de Dieu. Donc c'est Dieu lui-même qui est le lieu du corps de l'homme. C'est assez extraordinaire. Et là, on voit très bien le télescopage entre le point de vue de la cause propre et la cause finale. Puisque Dieu est le lieu du corps de l'homme d'une façon ultime et d'une façon propre. Puisqu'il n'y a pas de cause propre, il n'y a pas de lieu propre. Ça, c'est peut-être le caractère particulier de la cause exemplaire, et c'est ce qui nous fait comprendre la naissance de l'ontologisme. Ce qu'il y a de vrai dans l'ontologisme, c'est ça, c'est qu'au niveau de la cause exemplaire, il n'y a pas possibilité de distinguer entre cause propre et cause ultime. Il y a un télescopage qui se fait. Alors, comprenons que lorsque je me pose la question « Existe-t-il une réalité supérieure à l'homme ?» Il faut un nouvel amour de la vérité pour répondre. parce que c'est la question la plus difficile. C'est la question la plus difficile. De dépasser l'homme pour découvrir la source, l'au-delà de l'homme. Pas de façon imaginative, pas dans une nostalgie affective, mais dans une réalité intelligible. Que l'intelligence arrive à découvrir à travers l'homme une réalité supérieure à l'homme. Il faut un nouvel amour de la vérité. Faut-il plus ? Le philosophe, sachant très bien que découvrir l'existence de cet être premier, s'il existe, découvrir l'existence de cet être premier, c'est un effort ultime de l'intelligence. Plus grand effort que l'intelligence fait. Donc, il faut le plus grand amour, puisque le ressort, hein, c'est le levier qui permet de dépasser et d'induire, c'est l'amour de la vérité. Il ne faut pas l'oublier. S'il n'y a pas d'amour de la vérité, vous n'induirez jamais dans votre vie. Il faut un très grand amour de la vérité pour induire. Il faut donc ce levier. Et là, comme c'est encore plus difficile que l'induction, c'est quelque chose d'ultime, il faut un très grand amour de la vérité. Devons-nous dire plus, étant donné que nous savons que par l'amour spirituel, nous pouvons atteindre plus vite ce que les traditions religieuses nous disent de Dieu. Autrement dit, l'appétit spirituel rejoint plus immédiatement l'absolu que l'intelligence. Dieu est plus proche de notre volonté que de notre intelligence, autrement dit. Et ça, je peux le comprendre, hein, dans une attitude de réflexion critique. Si Dieu existe, il est plus proche de ma volonté, plus proche de mon cœur spirituel, c'est-à-dire de ma volonté, que mon intelligence. Alors, est-ce que les nostalgies intellectuelles, spirituelles, est-ce que les voies d'accès, d'immanence vis-à-vis de Dieu que je sais ne sont pas intellectuelles et donc objectivement scientifiques ? Ne doivent-elles pas être prises en compte pour pouvoir atteindre l'existence de l'être premier? Ça, c'est un problème très difficile, mais qui est très important. Est-ce que c'est par l'immanence que je vais redécouvrir la transcendance? Autrement dit, quand il s'agit de l'immanence intellectuelle, sûrement pas. Mais l'immanence affective, peut-être. Vous voyez? Et ce serait peut-être ce que Blondel a essayé de faire et a mal fait. Mais son intention est peut-être très bonne. Elle était sûrement très bonne, son intention. C'était un homme vertueux et craignant Dieu et cherchant la vérité. Alors, vous voyez comment l'immanence de l'affectivité, c'est-à-dire du cœur, l'amour que j'ai pour l'absolu, les traditions religieuses. Je peux utiliser les traditions religieuses avant d'avoir découvert métaphysiquement l'existence de Dieu. Enfin, ce que Pascal dit aussi à sa manière. La fameuse preuve de Pascal, qu'est-ce que ça veut dire, ce pari de Pascal? Quand Pascal dit « Dieu, s'il existe, il vaut mieux le prier que de ne pas le prier. S'il n'existe pas, ben le prier, tant pis. Il vaut mieux le prier. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'essaie de comprendre intellectuellement. Ça veut dire que l'affectivité est plus proche de Dieu que l'intelligence. Ça veut dire que du côté affectif, je peux m'approcher plus immédiatement de Dieu, qu'il y a une proximité affective. Alors si ceci est vrai, je dois donc pouvoir intégrer un certain amour, encore très indéterminé, encore très confus. Je dois pouvoir intégrer cet amour dans ma recherche à l'égard de Dieu. Ce qui est toujours très délicat, mais il me semble qu'on doit le faire. Ça permettrait, voyez, de resituer du côté de la disposition toutes les voies de l'immanence. En comprenant que du côté de la disposition, les voies de l'immanence ont quelque chose à dire, mais qu'elles ne peuvent pas le dire d'une façon ultime, et qu'il faut à travers ces voies d'immanence redécouvrir la grande objectivité des voies métaphysiques. Alors à ce moment-là, l'amour par rapport à l'intelligence, l'amour c'est-à-dire l'appétit spirituel par rapport à l'intelligence, n'est pas seulement extérieur à l'intelligence, mais il est à l'intérieur de ma recherche intellectuelle, comme une disposition. Et il facilite par le fait même les voies d'accès. De sorte que je crois qu'on peut dire que déjà dès ce moment-là, l'entrée dans le point de vue de la sagesse implique que l'amour soit intégré positivement dans la recherche de la voie d'accès vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de l'être premier. Ce n'est pas intégré d'une manière telle que je dois dire « je ne peux prouver l'existence d'un être premier que d'une manière affective ». Non, je ne peux pas dire ça. Ce serait la position de Kant, vous voyez. Du côté spéculatif, rien du tout, ce qu'on avait vu l'autre jour au séminaire. Du côté spéculatif, rien du tout, mais du côté pratique, on peut intégrer. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que l'aspect affectif, l'appétit spirituel, est de l'ordre de la disposition. Mais la structure des voies d'accès est de l'ordre de la connaissance métaphysique. Vous voyez ? Donc il y a une position particulière de l'appétit spirituel qui s'intègre dans cette recherche à l'égard de l'existence de Dieu. Et une fois que je découvre l'existence de l'être premier, l'appétit spirituel est intégré d'une manière encore plus profonde, puisque je découvre que cet être premier, il est mon créateur et que je dois l'adorer. Et que c'est par l'adoration que j'entre dans la contemplation. Or, l'adoration est une activité affective qui va me permettre d'avoir une contemplation affective. Autrement dit, le sommet de la vie de l'intelligence est non seulement enveloppé d'amour, mais il se sert de l'amour pour aller plus loin. Alors, je crois qu'on peut dire qu'ici, dans ce moment de la contemplation, donc, où la sagesse s'exerce parfaitement, parce que la sagesse est un habitus contemplatif, l'aspect affectif est présent. Et puis, troisième moment de la sagesse, le jugement de sagesse. Trois moments dans l'acquisition de cette habitude de sagesse. Le premier, découverte de l'existence de Dieu. Deuxième moment, la contemplation. Troisième moment, le jugement de sagesse. Et bien, progressivement, je vois que l'appétit spirituel s'intègre de plus en plus dans cette habitude de sagesse. C'est pour ça que je peux dire que cette habitus de sagesse est bien dans sa structure un habitus intellectuel, mais qu'il assume tout l'amour spirituel. Et donc il est lié à l'amour. Il n'est pas séparé de l'amour, il est lié à l'amour. Et il assume tout le point de vue de l'amour. Et donc nous sommes là en présence d'un lien très très profond entre l'intelligence et la volonté. C'est propre de cette habitude de sagesse. Cette habitude acquise de sagesse. Vous voyez, ça c'est très intéressant à voir. Parce que dans la mesure même où l'amour est présent dans le point de vue intellectuel, vous pouvez comprendre comment il peut y avoir des suppléances par la grâce. Et c'est par là que vous pourriez comprendre qu'il peut y avoir une vertu infuse de sagesse métaphysique. Je laisse le point d'interrogation. Mais vous voyez comment on peut y aboutir. Il y a une prudence infuse grâce à l'amour. Il peut y avoir une vertu infuse de sagesse parce que cet habitus acquis de sagesse implique un amour. Et que dès qu'il y a grâce, je suis la grâce surnaturelle, immédiatement la charité est présente et me met en contact avec, avec ma faim. Et me fait aimer ma faim. Et cet amour surnaturel ne détruit pas l'amour naturel. Et donc permet par l'amour naturel d'avoir cette habitude. Ne comptez pas trop dessus. Moi, c'est très simple, j'ai compris, il y a un habitus infus de sagesse. Pas la peine de faire de métaphysique. Donc, puisque ça c'est acquis, j'aime mieux le régime infus. C'est évidemment beaucoup plus noble. Hein. C'est beaucoup plus noble, c'est un régime. Mais attention, ordinairement, la grâce ne favorise pas l'oisiveté. Si Dieu nous donne des moyens d'acquérir l'habitus acquis de sagesse, Dieu ne nous donnera l'habitus infus de sagesse que si nous faisons tous les efforts pour acquérir l'habitus acquis. Quelqu'un comme le curé d'Ars, qui avait de la peine dans les études, je suis sûr que Dieu lui a donné une vertu infuse de sagesse. Ce que vous voyez dans des bons vieux prêtres qui ont qui même au point de vue étude peut-être n'ont pas poussé très loin, mais on a habitus infus de sagesse. Parce que ils doivent l'avoir pour pouvoir faire une vraie théologie. On ne peut pas faire de théologie si on n'a pas l'habitus acquis de sagesse. Alors on comprend très bien les suppléances qui viennent de Dieu. Par un habitus infus de sagesse. Ça c'est intéressant, au moins se poser la question. C'est intéressant de se poser la question. Parce que vous voyez, j'ai dit tout à l'heure, cet habitus acquis de sagesse, il est très rare. Alors s'il est très rare, la théologie est très rare. Oui. Mais il y a des suppléances. Il y a des suppléances magnifiques que donne l'Esprit Saint. Et ça j'en suis sûr. Des suppléances qui permet à quelqu'un qui fait ce qu'il peut, avec tout l'effort qu'il peut, eh bien, l'Esprit Saint lui donnera cette vertu infuse de sagesse qui lui permettra d'avoir une théologie pénétrante, précise, nette, qu'il pourra communiquer. Oui. Donc, c'est quelque chose qui me semble très important. Le démon sépare ce que Dieu a uni. Ça, c'est encore de la théologie. Le démon sépare ce que Dieu a uni. Le démon met une opposition entre l'appétit spirituel et l'intelligence. En ramenant l'intelligence à la raison, à l'entendement, et sans voir que l'intelligence est faite pour la contemplation. Alors, il met l'opposition entre les deux. Et c'est le drame de toute la philosophie occidentale. Le drame foncier de toute la théologie occidentale, de toute la philosophie occidentale, c'est que de fait, à la place de tendre vers l'unité entre l'intelligence et l'appétit, elle accentue la distinction pour en faire une séparation. Et alors, où vous tombez dans une philosophie affective qui ne dépasse pas l'éthique et qui reste à un niveau descriptif, Gabriel Marcel, c'est très beau, c'est très touchant, mais ce n'est pas de la métaphysique. Lisez de temps en temps quand vous êtes fatigué, lisez un peu de Gabriel Marcel, c'est Homo Viator, c'est beau, il faut lire du Gabriel Marcel. Il y a des choses très très belles, il y a des perles de temps en temps, pas son théâtre. Lisez plutôt le théâtre de Sartre, ça vaut mieux. Mais le théâtre de Gabriel Marcel, il est très ennuyeux, vous savez. C'est un salon dans lequel vous entrez, il y a des fauteuils qui sont là depuis une éternité. Et ils attendent des gens qui doivent s'asseoir là-dessus, on se demande pourquoi on s'assied là-dessus. C'était avec le père de Mena, c'était à Fribourg, je ne nomme pas qui, mais on était comme ça invités à prendre le café, bon, après le repas. On entre dans le salon parce que le repas n'était pas... Et on se trouve devant ce salon merveilleux, avec les sièges qui attendent depuis une éternité qu'on s'assoit dessus. Alors le père de Mena dit, tiens, si on s'asseyait par terre... Et non pas sur ces fauteuils. Quand ils arriveront, qu'est-ce qu'ils diront? Alors, on a fait ça, on s'est assis par terre. C'était des amis qui pouvaient comprendre. Alors ça, c'est le passage de l'habitus de sagesse à l'habitus d'amitié. Parce que la sagesse maintient l'ordre. Alors, si les fauteuils sont rangés d'une façon telle que depuis tout temps il y a cela, évidemment, il faut s'asseoir dessus. Ils vous tendent les bras. Non, c'est-à-dire que là, on refuse et puis on se met par terre pour bien montrer que cet ordre est un ordre ancien, pas infus, mais acquis. N'est-ce pas? Et que la tradition fait que ça se sclérose. Alors, il faut bien comprendre que là, nous sommes en présence, donc, ce que de fait, l'histoire de la philosophie occidentale nous montre le divorce de l'intelligence et de la volonté. Nous devons à tout prix, pour sauver l'intelligence et sauver la contemplation, le Saint-Esprit peut faire ce qu'il veut, mais le Saint-Esprit nous donne cette responsabilité. Pour sauver la contemplation, il faut redécouvrir l'unité fondamentale et ultime de l'appétit spirituel et de l'intelligence. Donc, redécouvrir cet habitus acquis de sagesse, qui est la qualité des qualités, qui ennoblit notre intelligence de la manière la plus profonde et qui lui permet d'atteindre sa finalité. Alors là, vous voyez bien le rôle double de la qualité dans l'habitus acquis de sagesse. C'est l'ennoblissement le plus profond de l'intelligence. L'intelligence ne peut pas être ennoblie de façon plus profonde. Et en même temps, par là, l'intelligence atteint sa fin. Et vous avez dans cet habitus de sagesse cette harmonie profonde entre le point de vue de l'appétit spirituel et de l'intelligence. Et c'est cela qui permet de porter le jugement de sagesse sur toutes les conclusions philosophiques. C'est dans cette lumière-là qu'il faut essayer de faire l'histoire de la philosophie occidentale. De juger, jugement de sagesse. Pas quand on passe des examens en Sorbonne. On ne sait plus ce que c'est que le jugement de sagesse. Il ne faut surtout pas. Il faut rester dans l'analyse des textes. On n'est pas au niveau de la sagesse. Aujourd'hui, on comprend plus ce que c'est que la sagesse philosophique. Ça ne se comprend plus du tout. On est au niveau de l'analyse. Les exercices scolaires sont au niveau de l'analyse. Les exercices scolaires ne sont pas au niveau du jugement de sagesse. Jamais porter un jugement de sagesse au niveau scolaire. Jamais. C'est impossible. Mais il faut au contraire rester dans l'analyse philosophique du texte ou de tel ou tel aspect. C'est très important, vous voyez, de comprendre que le jugement de sagesse, c'est directement cette habitude, ça quitte sagesse. Donc, j'espère que là, vous voyez. Deuxième, quel est le second habitus? Ah! Vous pourriez dire, dans l'ordre de la noblesse, dans l'ordre de la noblesse, vous pourriez, là, je peux mettre deux ordres différents, tout de suite, parce que pas unifié. Il y a un sommet, mais dès que je quitte le sommet, il faut accepter qu'il y ait deux lignes. Alors, dans l'ordre de la noblesse, pas dans l'ordre de la finalité, dans l'ordre de la noblesse, qu'est-ce qui vient immédiatement après? L'habitus mathématique. L'habitus mathématique a une noblesse très particulière. Et l'habitus mathématique, vous le comprenez bien, ne fait pas du tout l'unité entre l'appétit spirituel et l'intelligence. L'habitus mathématique ennoblit l'intelligence dans un état d'abstraction. Et donc dans un état d'abstraction. Je ne dis pas de séparation, mais d'abstraction. Et l'habitus mathématique, qui ennoblit l'intelligence dans un état d'abstraction, n'intègre absolument pas l'appétit spirituel. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'on fait des mathématiques chrétiennes. Voilà. Vous voyez pourquoi. S'il y avait l'appétit spirituel, vous pourriez parler d'un habitus, d'une certaine manière, des mathématiques chrétiennes, d'une certaine manière. Immédiatement après les mathématiques, viennent les autres sciences. Disons. Sont des habitudes intellectuelles. Et je crois que là, il y a une noblesse particulière. Alors, savoir jusqu'où vous êtes en présence d'un habitus, c'est-à-dire une science. Parce que au-delà de la science, il y a tout ce qu'on pourrait appeler des dispositions, des méthodes, qui ne sont pas nécessairement des sciences. Pour qu'il y ait science, il faut connaissance des causes. Dans la lumière mathématique, c'est-à-dire en assumant le point de vue de la formalisation mathématique, il y a des causes propres qui peuvent être saisies comme des causes exemplaires, des prototypes qui vont aider. C'est la cause propre exemplaire qui va jouer un rôle très important. Et puis au-delà des sciences, ou en deçà des sciences, exactement, vous avez des disciplines. Des habitus qui ne sont pas de vrais habitus de science. Ce sont des disciplines. Ce sont des recherches. Grosse question, une question extrêmement difficile. Savoir pour la biologie, par exemple. C'est savoir si un habitus de biologie. Je me souviens avoir discuté ça longuement avec un espagnol docteur en biologie de Genève, qui venait de temps en temps à Fribourg, dans un séminaire sur le De Anima, je l'avais averti, faites attention, tenez-vous bien, parce que sans doute que vous allez perdre pédale et vous mettre dans un état d'irritation. Quand Aristote dit que l'âme est la seule source d'intelligibilité pour le corps. Vous comprenez que pour un biologiste rompu aux sciences biologiques, c'est terrible, c'est une gifle. Ce qui ne cherche pas l'âme à la patience, il n'y a pas de cause propre. Et c'est ce qu'il avait très bien compris. Il avait très bien compris ça. Il a dit, mais alors, j'ai rien compris à la science biologique. Science du vivant, philosophie du vivant. Et alors, en biologie, c'est ça qui est très important, c'est qu'il y a les deux tendances, vous savez bien, la tendance de mathématiser la biologie et la tendance de mathématiser la biologie par la physique, ou au contraire de donner à la biologie sa liberté, son autonomie, mais comme il n'y a pas de métaphysique, alors on n'a plus qu'une discipline, on n'a plus qu'une recherche, puisqu'on ne saisit pas les causes propres. C'est l'étude de la matière vivante. Alors, si c'est l'étude de la matière vivante, il n'y a pas d'étude au sens propre, du principe propre de cette matière vivante qui est là. Donc, il y a que des dispositions, pas plus. Et ça, c'est très important, c'est intéressant d'y réfléchir, quand il s'agit justement de comprendre les qualités. Où y a-t-il vraiment qualité? Parce que la discipline, quand on n'atteint pas la science, et qu'on est uniquement au niveau disciplinaire, on n'est pas du côté de l'habitus, mais du côté de la disposition. Si on est du côté de la disposition, on n'est pas au côté d'une qualité parfaite. C'est l'exis qui est une qualité parfaite. Hein. C'est l'habitus. Et l'habitus implique la découverte des causes propres. Donc là, il y a un problème très très important de critique, mais aussi de métaphysique, vous voyez. Parce qu'au point de vue métaphysique, savoir si vraiment il y a un ennoblissement de l'intelligence ou simplement une méthode qu'on apprend. La méthode n'ennoblit pas l'intelligence. Hein. Être très ferré au point de vue des méthodes et au fond être relativement peu intelligent. Vous avez appris parfaitement une méthode, vous savez parfaitement une méthode, mais votre intelligence. La méthode est extrinsèque à l'intelligence. Elle ne qualifie pas du dedans l'intelligence. Et donc elle met l'intelligence uniquement dans un état de disposition, pas plus. Et ça fait comprendre des quantités de choses. Quelqu'un qui aimait beaucoup Monod et qui me disait, est-ce que vraiment son intelligence est qualitative ou est-ce qu'il n'y a qu'une disposition, il y a une méthode? Et je crois qu'en réalité, il n'y avait qu'une méthode. C'est toujours très difficile hein, de juger de l'extérieur. Mais au fond, on comprend très bien comment l'habitus ennoblit du dedans alors que la méthode est logique. Et donc, elle est simplement un instrument dont on se sert. Si elle est un instrument dont on se sert, elle n'ennoblit pas directement l'intelligence. La logique n'ennoblit pas directement l'intelligence. Ça, c'est sûr. Hein. Vous voyez, pour que je vous comprenne mieux, la différence entre l'art et la virtuosité. Il y a des gens qui ont une virtuosité étonnante. La virtuosité n'ennoblit pas l'intelligence de l'artiste. C'est une méthode. Avec toute l'application qu'il y a. Alors, toute la différence entre l'art et la virtuosité, transposée, fait la différence entre la science, qui est une vertu qui ennoblit l'intelligence, et des méthodes qui viennent uniquement permettre une certaine habileté dans l'application. Mais ça n'ennoblit pas l'intelligence au sens absolu. Ça reste extérieur à l'intelligence. Toute méthode reste extérieure à l'intelligence. Alors que l'habitus, lui, directement, ennoblit l'intelligence. C'est intrinsèque. Alors, l'autre aspect, ça c'est la dominance. L'autre aspect, c'est la finalité. Du côté de la finalité, vous comprenez qu'immédiatement après la contemplation, c'est la même amitié. Est-ce que l'amour d'amitié implique un nouvel habitus? C'est une très grave question, là aussi, qui reste pendante. Pour Aristote, il n'y a pas une vertu nouvelle pour l'amitié. L'amitié ne nous apporte pas une nouvelle vertu. Mais l'amitié est la fleur des vertus. Pour qu'il y ait une véritable amitié, il faut qu'il y ait de véritables vertus. Autrement, on a une amitié uniquement délectable, une amitié de jouissance, qui est une amitié momentanée et qui ne pénètre pas jusque dans le cœur de l'ami, dans ce qu'il a de meilleur. Bien, il y a les trois degrés d'amitié. L'amitié parfaite, l'amitié délectable et l'amitié utile. Il est bien évident que l'amitié utile n'a pas d'habitus. C'est de l'ordre de la méthode, de la diplomatie. Maintenez auprès de vous un ami qui vous est très utile. Soyez très diplomate avec lui. pour maintenir cette amitié, pour pouvoir tout lui demander. Surtout à la période des examens, c'est très important. Alors, on maintient cette amitié, mais c'est de l'ordre, vous voyez, extrinsèque, ça n'a rien à voir du tout avec le point de vue de la qualité. Et l'amitié de jouissance, elle aussi, n'a rien à voir avec la vertu. Seul l'amour d'amitié au sens le plus fort, où on aime l'autre pour lui-même, peut ennoblir. Mais elle n'implique pas de vertu particulière. Elle implique toutes les autres vertus. Mais je peux dire qu'elle implique toutes les autres vertus dans quelque chose de spécial, qui est quand même un au-delà de la vertu, qui fait qu'on doit quand même reconnaître qu'il y a dans l'amour d'amitié un certain ennoblissement de notre volonté.
Jésus, le fruit de vos entrailles. Sainte Marie, Mère de Dieu.